Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de Choix Radio X. Premier last call cette semaine à compter de 22h. Le chum Max Lacasse va être là pour prendre vos appels, mais il va être là, on me dit, peut-être même avant ça. Manquez pas ça.
Si j'étais vous, je serais là.
Ouais, je pense que ça va être un moment bien le fun avec le chum Max. On va recevoir tantôt là, pour faire le tour de son parcours, comme on aime le faire avec certains de nos collègues.
Stay tuned.
Ouais, il y aura d'autres affaires à jaser aussi. On n'a même pas jasé mais de l'éventualité de traiter une policière de sale pute.
Moi, non.
Tu vois, on dirait que j'oserais pas faire ça. Par peur de me faire passer par la fenêtre.
Ben à Montréal, tu peux le faire sans aucun problème.
Ben oui.
Parce qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit.
Ouais. Il n'y a pas de loi, mais généralement, quand tu as des parents, ils te montent à pas faire ça. Là.
Ouais,
même s'il n'y a pas de loi. Là.
Ça, c'est des parents québécois qui montent ça.
Je crois pas qu'il y a vraiment une loi qui nous interdit, mettons, de faire quelqu'un dans le milieu d'une allée, mais mes parents m'ont dit de pas faire ça. Bon, ouais, fait que je le fais pas, tout simplement.
Ouais, on me dit que le savoir-vivre, hein, ça dépend de l'endroit d'où tu viens.
Effectivement. D'où tu viens dans le sens de ta famille. Là. Ouais. Bref, all right. Hey, en studio avec nous autres de nomos-tv.com, Philippe Plamondon. Salut, Phil.
Salut, les gars.
T'es en forme?
Très en forme.
Excellent.
Ouais.
Aujourd'hui, on est... Puis, il faut le dire, là, parce qu'à ta dernière visite, tu nous as parlé des zombies.
Ah oui.
Et... Un peu comme tu t'étais plugué avec notre médium de quel on parlait avant la pause, là, t'as eu un don de clairvoyance. Parce que quelques jours plus tard, il y avait une zombie au Saguenay qui œuvrait.
Non, on appelle ça de la synchronicité.
Carrément.
En fait, on a compris dans notre analyse du zombisme, du phénomène de zombie, que c'est un mélange de vaudou haïtien et de films d'horreur des années 70 de George Romero. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, hein, je l'ai dit, qui était italien, c'est un américain. Mais tout le reste était correct, c'est-à-dire production italo-américaine, le banum italien gobelin, tout était correct, mais c'est un américain.
Okay.
C'est un mélange, le zombie qu'on connaît, là, c'est-à-dire le mort-vivant qui sort pour te bouffer le cerveau. C'est un mélange de vaudou haïtien puis de films d'horreur des années 70. C'est ça qui a donné le symbole du zombie auquel on se réfère finalement dans la culture populaire. T'sais. Puis là, 3-4 jours après... Hein, il y a une dame au Saguenay, haïtienne, qui s'est mise à faire des incantations vaudou.
Aux policiers.
Aux policiers, puis je pense aux gens autour.
Ouais, pour lui lancer des maladies parce que lui donnait du trouble.
Jean-Francis était là.
Ben...
Il s'est fait lancer un wanga.
Non, mais pour vrai, là, c'est parce que ce qu'il dit là, c'est que nous autres, ça nous a donné l'idée d'appeler dans des épiceries africaines montréalaises. Puis je lui ai expliqué qu'un chaman m'avait lancé un wanga, qui est un mauvais sort qui attire le trouble, la malchance, puis les conflits. Puis que je cherchais un gris-gris. Pour m'en départir.
Okay.
Puis, je te dirais, dans 2 épiceries sur 3, ils ont fait « Oh mon Dieu! » Et ils capotaient.
OK, ben oui. Oh. J'imagine ça réfère à quelque chose.
Ouais. Oh, Wenga, ça existe. Ça. Là, c'est pas de notre imaginaire.
Exactement. Bon, ça, c'est des coups de téléphone.
Ouais, ben, c'est notre côté juvénile.
Ouais.
Deux ados avec des micros.
Ouais, c'est ça.
Cette semaine, c'est pas une suite des zombies, mais c'est une même sorte d'analyse, parce que de toute façon, on va parler aujourd'hui des momies.
Oui,
okay?
J'aime ça.
Fait que c'est le fun, parce que sur le plan de la culture populaire, ça réfère un peu au même principe que les zombies. On se dit, donc tout de suite en partant, on s'imagine des cadavres enveloppés de bandelettes sales qui sortent d'un sarcophage pour se venger, en fait, pour maudire les profanateurs de tombeaux.
Oui.
Je pense tout de suite à ça.
Puis d'emblée, je pensais que les momies étaient réservées juste uniquement à la haute classe de la société, mais je pense que il y a... c'est pas juste les leaders suprêmes qui étaient momifiés.
Non, on va en parler parce que c'est tout un univers, là, les momies, puis la momification. Parce que dans le fond, c'est une forme d'embaumement. Qui est plurimillénaire. Puis, je vous le dis, on va regarder ça ensemble. C'est super intéressant. Sortir, justement, un peu des caricatures grossières de la culture populaire. Évidemment, par exemple, que c'est normal qu'on les ait. Là, tu sais, qu'on pense tout de suite à l'Égypte de façon un peu caricaturale, aux momies égyptiennes. La momie est quand même, dans la culture populaire, un monstre iconique, emblématique. Puis, au même titre que les zombies, les loups-garous, Dracula, tu sais, je veux dire, ça rentre dans cette... imaginaire populaire-là. Fascination aussi populaire qui explose après la découverte de Toutankhamon en 1922. C'est à partir de là qu'il va y avoir une espèce d'engouement pour l'idée de la momie. Là. puis que ça va se mettre à rentrer dans la littérature, dans les livres, dans les films, dans les... dans le cinéma,
sauf
dans la
erreur.
Culture.
Sauf erreur, Toutankhamon, c'est un enfant. Hein? Ça se peut-tu? C'est... Il n'était pas vieux. Je pense qu'il est décédé super jeune. Quelque chose du genre.
Faudrait
tu peux vérifier ça, Louis? Ça,
c'est lui qui était à 16 ans. Hey, moi, j'étais en égyptologie. Je suis totalement
Il est mort à 19 ans.
Oui, j'allais dire 16, moi.
Ouais, c'est ça.
C'est une fois, tu vois. Fait qu'évidemment, on se réfère à l'Halloween, une fascination mêlée de peur, de corps qui défie la mort, de vengeance des anciens, puis de l'interdiction de déranger des morts. T'sais, c'était tout de suite à ça, ça à quoi on pense. En fait, ce qui a peu à voir avec l'idée réelle de la momie.
OK.
OK. C'est pas des histoires de garder la tombe.
Sinon, l'idée, c'est ça. Quand eux, ils ont fait ça au départ, c'était pas dire on va foutre la chienne au prochain. C'est pas ça.
Non. Mm. Puis là, on parle que ce soit les momies égyptiennes, les momies andines. Pourquoi andines?
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire?
Les Andes.
Ah, non, ouais.
C'est les momies le Chili, Pérou. OK. Là, on va en parler. Ça, c'est malade, hein, parce que les autres, là, c'était fou. Ils pouvaient momifier tout le village entier pendant des millénaires.
OK.
Fait que là,
le village entier?
Ah, ouais, entier. Puis momifié, peinturé, tout. Là. Puis après ça, déposé dans des grottes. Là, puis...
OK.
Ah oui, oui. Chinchorros aussi, qui est une autre sorte de momie d'Amérique latine. Les Incas momifiaient. Les bouddhistes aussi. Fait que là, on va regarder ça ensemble parce que c'est vraiment super intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, momie? Tu sais, momie, ce mot-là, ça vient d'où? C'est toujours important. Chaque fois qu'on parle de quoi? Zombie, l'autre fois.
Oui, oui.
Hein? Ça vient de langue africaine, principalement du Bénin. Qui veut dire, tu sais, de se lever des morts, esprit qui se lève. Là, ici, momie, en fait, qu'est-ce qu'une momie? Ben, la définition même d'une momie, c'est, en fait, c'est préservation des tissus mous après la mort.
Okay?
Ça, c'est la définition de la momie, c'est la préservation des tissus mous après la mort. Momie, c'est ça. Fait que c'est, en fait, c'est un corps humain ou d'animaux, hein, ça peut être animal, hein, des momies, dont les tissus mous et les organes ont été préservés de manière intentionnelle par des techniques d'embaumement artificiel ou de manière accidentelle. Parce que ça aussi, hein, on a déjà retrouvé des momies dans des grottes qui n'avaient pas... c'était pas intentionnel.
Ouais, qui avaient été momifiées par le...
Momifiées par la température.
L'environnement. Donc,
l'environnement. Mais il y a, évidemment, on va parler des momies, principalement des momies intentionnelles. Il y a aussi des momies surnaturelles. Ça aussi, on va finir avec ça, là, tantôt.
Okay.
Là,
okay.
Tard, là, parce que... Il y a des momies surnaturelles. Fait que là, comme on vient de le dire, des momies accidentelles, on parle de conditions environnementales naturelles, froid extrême, sécheresse désertique, tourbière acide ou le fumage. Parce qu'on va voir aussi qu'il y a des tribus qui fument les cadavres dans des huttes à cet
c'est
effet.
C'est ton genre de tribu, ça?
À 225 pendant 12 heures, là, ta momie s'effiloche
non,
tout seul.
C'est pendant deux mois.
Oh, shit!
Oh, okay, voilà,
ça finit en jerky.
C'est ça, j'allais
dur
dire.
Comme
ça,
de la roche.
C'est du jerky.
Puis là, après, ça, je vous le dis, on ne saute pas d'étape. Je vous le dis, on revient à ça, OK?
Okay.
Parce que ça c'est l'histoire la plus hallucinante qu'on a sur les momies, c'est ça. Là, okay?
Mais au départ,
fumées dans les huttes là, qui participent au village parce qu'ils restent dans le village après. En tout cas.
OK, il reste dans l'environnement du village en train d'être fumé tranquillement.
Non, après le fumage. Okay. Il participe à la vie sociale. Oui, oui.
Okay.
OK. Fait que là, le terme momie provient de l'arabe mumia, du latin. En fait, c'est pas vrai. Laissez-moi être plus précis. Le terme momie provient du latin mumia, qui lui vient de l'arabe mumia.
OK.
Puis, en fait, là, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, mumia? Ça veut dire substance bitumineuse. OK.
Bitumineux.
L'asphalte.
Ah, du goudron.
Oui, c'est ça, comme goudronneux.
Pétrole, goudronneux, bitumineux.
OK. Et?
Ça veut dire substance visqueuse noire bitumineuse, OK?
OK.
Mais là, on va y aller plus sur le fond, sur la définition même du mot, parce qu'en persan, il y a le terme « moum » qui signifie « cire », comme de la cire à chaussures, par exemple, OK? Comme une cire d'embaumement.
OK, OK. Okay.
Les Arabes découvrent au Moyen Âge des momies égyptiennes. OK? Puis sont noires, brillantes, lustrées, un peu collantes même, à cause des baumes d'embaumement.
OK.
Eux autres, immédiatement, ils connaissent le bitume, ils connaissent le pétrole, ils en ont. Ils en utilisent d'ailleurs en médecine à l'époque, au Moyen Âge.
Ah, c'est ça, parce qu'ils mettent une lotion avant de mettre le ruban.
Un peu comme une vaseline.
Ouais, OK.
Fait que quand ils ont découvert les momies au Moyen Âge, ils étaient convaincus que les momies étaient couvertes de ça, de goudron, en fait. de pétrole pur, là, mais en espèce de crème.
Je veux pas te prendre les culottes, attends, mais quelle est la croyance qui les amène à vouloir momifier quelqu'un? C'est-tu un dérivé du...
On va être là.
On s'en va là.
Oui, on s'en va là, c'est tout là. Fait que là, dans le fond, mumia, ça veut dire résine bitumineuse ou corps embaumé. Finalement, c'est devenu ça. C'est comme si le mot...
Par erreur.
Ben, en tout cas, par erreur en plus. Hein? Parce que, paradoxalement, les Égyptiens ont utilisé peu de bitume pour embaumer. Mais en fait, j'ai essayé d'avoir un pourcentage, là, mais c'est à peu près 75% des momies n'avaient pas de bitume.
Okay.
Mais à la fin des empires, c'est-à-dire le dernier 500 ans des empires égyptiens, c'est-à-dire, mettons, de moins 500 à Jésus-Christ, ils ont utilisé beaucoup de bitume pour les momies.
Okay.
Fait que là, oui, c'est vrai. Puis non, pour le trois quarts des momies qui n'en avaient pas. Fait que donc, c'est à la fois vrai.
Ils ont peaufiné leur technique, dans le fond.
Oui, exactement.
OK.
On tombe tout de suite, évidemment, dans la fonction religieuse. Parce que c'est de ça dont tu parlais. Mm-hmm. La fonction religieuse de la momification varie fortement selon les cultures, évidemment, parce que les fonctions ne seront pas les mêmes un peu partout. Mais c'est presque toujours relié, évidemment, à la notion de l'au-delà, dans le premier des cas.
J'entends qu'en Égypte, là, en Égypte antique, on est beaucoup collé sur des iconographies très nature. Est-ce que c'est une forme de paganisme, sais-tu?
Non, regarde, en fait, c'est soit relié au monde de l'au-delà, c'est-à-dire conserver le corps. Puis là, je vais l'expliquer en détail avec les Égyptiens, c'est très clair.
Okay.
Puis c'est avec eux où l'idée de la momie puis de la momification est le plus structurée puis le plus clair. Mais c'est soit relié, parce que le paganisme auquel tu réfères existe bel et bien, mais c'est l'idée de continuité de l'existence puis le rôle des ancêtres dans le monde des vivants. Parce que la momie, elle devient un objet.
Mmh.
OK? Ouais. Elle est là. Elle existe. Elle existe, là.
Et
la momie,
là,
physiquement, elle est présente. OK? Mmh. Fait que donc, c'est un rôle des ancêtres dans notre monde des vivants. Elle peut être cachée. On va le voir tantôt, là, il y en a qui émettent au-dessus des falaises autour du village, il y en a que c'est dans des grottes, mais c'est présent. Il y en a que c'est carrément dans le village. Là. Puis en Égypte, évidemment, on va aller par la base, là où les momies sont les plus célèbres et les plus élaborées, évidemment, là, c'est que la momification vise à préserver le corps comme une demeure physique pour les composantes spirituelles de la personne.
Okay.
Le corps va être l'espèce de récipient théologique au départ du défunt. Fait que le ka, qui est la force vitale, le ba, qui est l'âme mobile, et le ak, qui est l'esprit transfiguré. Puis sans le corps intact, ces éléments risquent de se perdre. Fait que l'idée de la momie égyptienne, c'est de garder la force vitale, l'âme mobile et l'esprit transfiguré dans la coquille, dans le cadavre, en fait.
Fait qu'il faut que ça soit bien scellé si on veut que tout ça reste intact.
Exactement. Okay. Ces éléments risquent de se perdre si on le fait pas. Fait que la momie permet aux défunts de traverser les épreuves de l'au-delà, évidemment de revivre éternellement, puis en plus, de recevoir des offrandes. Les rites d'embaumement, c'est pour les Égyptiens, on enlève des organes, pas tout le temps, mais des organes. Puis là, on parle, là, c'est spécial. Je me demandais vraiment c'était quoi. C'est comme un nom de band black metal, OK? Ceux qui cherchent un nom de band black metal... Là,
sortez vos crayons.
Oui. Dessiccation. Fait que c'est D-E-S-S-I-C-C-A-T-I-O-N. Fait que dessiccation au natron. Qu'est-ce que le natron?
Ouais.
C'est fait que la dessiccation au natron...
Ça sonne comme quelque chose que les Iraniens ont qu'on veut pas qu'il aille.
Oui, 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 c'est... Ouais, est-ce qu'on cherche le natron?
Le natron?
Oui, mais on cherche les tubes de natron là, dans toutes les aventures. C'est un mélange naturel de plusieurs sels de sodium.
Okay.
De plusieurs sortes de sels, je ne les ai pas notés, mais il y en a comme 6 ou 7. Puis ça, c'est la concoction de sels dans lequel on va laisser le cadavre de l'Égyptien baigné dans le sel pendant je sais pas combien de temps pour enlever tous les liquides.
OK, on le met en salaison.
C'est séché comme de la morue.
Oh oui, on le met en salaison.
Oui.
Pour que toute l'eau sorte.
En somme.
Oui.
Mais c'est ce que c'est.
Ah oui.
Pour retirer tous les liquides, pour éviter qu'ils pourrissent.
OK.
Pour qu'enlever toutes les formes de bactéries.
Il devient plein de sel.
Fait que dans le fond, il y a un bain de sel, littéralement. Là. Après l'avoir préparé assez minutieusement, tout ça est extrêmement religieux. Hein?
Mmh.
Fait qu'on enlève les organes, on fait la dessiccation au natron pour retirer le plus d'eau et d'humidité possible pour éviter les bactéries. Après ça, on fait des onctions. Ça, c'est des incantations magiques avec des huiles. Okay? OK? Après ça, on pose les bandelettes. Tout ça, c'est évidemment la momie. Hein? C'est une succession de bandelettes étant embobinées. Momifiées, c'est les bandelettes. L'amulette sont des... Et puis, ils placent des amulettes dans les bobines. Hein?
Ah oui,
ouais, il y a des amulettes là-dedans.
Il y a de quoi là-dedans?
Oui, oui, il peut avoir des amulettes. Ce sont des actes religieux complexes, souvent accompagnés de formules magiques. Ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, les Égyptiens momifiaient les animaux. Ils momifiaient les chats, les poissons, les crocodiles, les taureaux. Et c'était des momies qui étaient pour faire des offrandes, en fait.
Ah,
c'était des momies qui servaient à faire des offrandes à des dieux. La momification en Égypte, c'est une pratique qui s'étend sur plus de 2000 ans. Hein. On parle de moins 2600, moins 3000 à l'époque romaine. Jusqu'à l'époque romaine, c'est-à-dire moins quelques centaines d'années. Fait que ça dure plus de 2000 ans pour ce qui est de l'Égypte.
C'est fou, ça, quand même.
Ouais, c'est fou quand même. Hein? Puis, dans les autres cultures, en dehors de l'Égypte, la fonction religieuse de la momie, elle va être presque toujours reliée au culte des ancêtres. OK?
OK.
Fait que là, c'est la vénération ou des sacrifices rituels, très peu souvent reliés à une sorte d'individu pour un jugement dernier, comme les Égyptiens, là. Là, on est plutôt vraiment dans l'ancêtre pur et dur qui est momifié par toutes sortes de manières. Au Pérou et au Chili, chez les Chinchorros, c'est moins 5000 avant Jésus-Christ.
Okay.
C'est les plus vieilles momies artificielles connues. Artificielles au sens que c'est pas accidentel.
Est-ce qu'on entend plus parler des momies égyptiennes parce que c'est celles qui se sont le mieux conservées à cause du climat ou les momies de ces pays-là aussi se sont aussi bien conservées avec le temps?
C'est que les momies égyptiennes sont, bon, premièrement, elles sont beaucoup plus belles. Sur le plan esthétique, elles sont dans des sarcophages multicolores avec des aigles, avec des bijoux en or. Puis, je veux dire, sur le plan esthétique, c'est hautement supérieur. Sur le plan de la conservation, ça se ressemble. Évidemment, comme je dis, l'Égypte antique est très structurée. C'est connu pour ça, là.
Okay.
Autant sur le plan de la culture, sur le plan de l'esthétique, mais c'est aussi sur le militaire, les chefs, les rois, les guerriers, machin. C'était très, très, très structuré. On n'est pas dans un animisme primitif de type précolombien de moins 5000 avant Jésus-Christ en Amérique latine. Fait que c'est certain qu'en Amérique latine, c'est beaucoup plus... c'est comme je viens de le dire, primitif. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Là. Je veux juste dire que sur le plan esthétique, c'est beaucoup moins impressionnant.
C'est moins étoffé.
Beaucoup moins. Puis aussi, ce qui est qu'il y en a beaucoup, des momies précolombiennes. Fait que donc, tu sais, à cette époque-là, d'ailleurs, précolombienne, Pérou, Chili, on momifiait tout le monde. Toute la communauté était momifiée, même les enfants là, qui mouraient, par exemple, là, de maladies infantiles. On momifiait les enfants. Tout le monde était momifié. Eux autres, ils enlèvent tous les organes. Puis les grands bourrets, OK?
Ah oui, on faisait un peu de... Comment on appelle ça?
L'empaillage. Oui, ils empaillaient.
Mais oui,
puis ensuite, ils peignaient. Ils faisaient peinture dessus.
OK.
Puis ils allaient les porter dans des grottes. D'ailleurs, ils en retrouvent par centaines, dans des grottes.
Ah, ça doit être cool, là. Tu vas t'aventurer dans ta grotte locale du village.
Ah, mais c'est sûr que oui, en fait. Mais ils savent, les locaux le savent qu'il y en a beaucoup. Bon, ça, en fait, on pense, parce que là, ça remonte à 5000 ans. Ce qui se passe il y a 5000 ans, on ne sait pas trop, mais ça semble quand même lié à une sorte de mémoire collective, en fait. Fait que c'est comme une façon de... C'est une forme de paganisme, hein, comme tu disais, d'animisme, de la continuité.
Genre de capsule temporelle?
On se garde avec nous. Dans le fond, on sait la continuité, on prend soin de nous, on prend soin de nos cadavres.
Mais comme nous autres avec nos cimetières aujourd'hui.
Exact. On les empaille, on les garde, on en prend soin. C'est nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis. Fait que c'est une forme de... C'est de l'embaumement, hein, on le dit. Fait que c'est la gestion de la mort. Hein. On n'est pas à notre première année de tout ça. Là.
Entre les deux, qui conserve mieux? Qui a les meilleurs succès, le bain de sel ou bien eux autres à grand coup de peinture? C'est du même que ça faisait.
Les empaillés. honnêtement, comme je le dis, hein, c'est-à-dire que chez les Égyptiens, le corps est couché sur le long, les mains en croix, des bijoux, des bandelettes, des offrandes, parce que c'est un voyage. Son esprit... comme tantôt je le disais, je me souviens plus exactement des termes, là, la force vitale, son âme mobile, tout ça est en fonction du départ individuel. Tandis que là, en Amérique latine, au Pérou, au Chili, en ce qui concerne les momies andines des Andes, là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le culte des ancêtres. C'est vraiment, c'est le village qui se conserve. C'est le cimetière de la communauté.
C'est juste qu'eux, c'était leur méthode.
C'est leur méthode, exactement.
Mais les restes qu'on retrouve aujourd'hui, est-ce qu'ils sont de meilleurs...
Ils sont en position fœtale la plupart du temps. Okay. Ils vont être accroupis, souvent recroquevillés, un peu comme un sommeil.
Okay.
Fait que c'est pas du tout la même chose. T'sais, c'est pas structuré comme l'Égyptien qui va être dans une tombe en ligne droite avec les bras croisés, avec des bijoux, puis de l'esthétique hallucinante. Puis t'sais, comme c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est beaucoup plus primitif, grotte. Puis d'ailleurs, c'est plus vieux. Hein? On parle de moins 5000. Hein? Fait que ça, c'est ça, ça semble lié à une forme de mémoire collective. Chez les Incas, c'est les momies des dirigeants ou des enfants sacrifiés, parce que les Incas faisaient beaucoup de sacrifices humains, beaucoup de sacrifices humains d'enfants, étaient en fait aussi vénérés comme des ancêtres divinisés, fait qu'ils momifiaient les enfants sacrifiés et les dirigeants importants, par exemple, présents lors des cérémonies symbolisant avec eux les vivants. Les dieux puis le cosmos. Fait que là, on est complètement dans d'autres choses, parce que là, en disant que c'est les enfants sacrifiés puis les dirigeants, déjà, on n'est pas dans le village au complet. Là.
Non, c'est sûr,
ça reste l'Amérique latine. Ouais. Fait que c'est compliqué, là. Uh-huh. Il y a une momiologie, là. T'sais, on se comprend.
Ouais, ouais, ouais.
Puis là, on est juste en Amérique latine, puis il y aurait des thèses, puis il y en a, ça s'est fait. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines de thèses de doctorat sur les momies. Hein. Je peux vous dire, en anthropologie, alors, c'est clair, garantie que ça existe, puis... En archéologie aussi, c'est clair et net. En Asie, on en a déjà parlé, Jean-Francis. Souviens-toi-en des momies avec des lunettes fumées, là. Tu sais, il y avait une momie d'un moine bouddhiste conservé, il y avait des lunettes
oui,
de...
Oui, qui est mort en faisant un statut, là, carrément.
Oui, puis il y avait carrément des lunettes de Top Gun, là.
Oui, oui, je me rappelle.
OK? Oui, carrément des lunettes vraiment genre vu harnais, là.
Oh, oui.
Puis sur la momie. Mais en fait...
Des lunettes qui disent « for sure ».
C'est fou, par exemple. Mais dans le bouddhisme, c'est le bouddhisme et le taoïsme, le phénomène de moines auto-momifiés existe. OK? Fait que c'est des moines qui ne pourrissent pas, OK? Qui sèchent. Puis ça, quand ça arrive, ils meurent en priant, évidemment en méditant. Hein, sont dans la position du lotus, ils méditent, ils meurent. Puis ils sèchent.
Ils sèchent de même.
Ils ne pourrissent pas. Puis
mais
y en
c'est
a...
Dieu.
Ben, c'est pas Dieu
c'est
pour
Bouddha,
eux.
C'est Bouddha, là, excuse-moi.
Non, mais pour eux, c'est plus compliqué que ça, justement, parce que ça n'intervient pas comme de cette manière-là. Ça veut dire qu'ils ont eu une vie bonne comme moine.
Okay.
Ils ne pourrissent pas.
GSP ne pourrit pas.
GSP ne pourrira pas.
Non.
Voilà. Donc, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a hein, dans plusieurs pays, des moines bouddhistes qui n'ont pas pourri. Qui sont morts séchés en méditant. Donc, peut-être que c'est un signe qu'ils ont atteint le nirvana.
Qu'est-ce que la science a à dire là-dessus?
Ouais, mettons...
Ah, ça, c'est fou parce que, bon, évidemment, la science va dire ce qu'elle peut dire. Là, parce que, aussi, on va y revenir, mais avec les chrétiens, parce que les catholiques aussi, on a des. Mais c'est pas des momies.
Des incorruptibles, là?
Oui. Oui, c'est exactement ça. Mm-hmm. En fait, c'est des corps qui ne pourrissent pas. Fait qu'on a la même chose aussi. Fait que, donc, c'est la préservation qui témoigne d'une sainteté. Ou d'un grand accomplissement spirituel.
Il me semble, il n'y a pas si longtemps, ils ont ressorti un saint là, d'une tombe, puis il était pareil comme quand ils l'ont mis là.
Exact. Mais là, on va juste faire.
Oui.
Parce que, check, on fait les. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, parce qu'après ça, on peut passer pour l'incorruptibilité des corps.
Mm-hmm.
Mais là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, OK?
Ouais.
Ça, c'est quand même, là, c'est l'océan Pacifique. Ça touche à la fois la Papouasie-Nouvelle-Guinée française et aussi l'Indonésie, par exemple. C'est très loin. Là, on est vraiment... C'est là où il y a... On a déjà parlé ici, Jean-Francis, souviens-toi, quand on a parlé des crânes, des cannibales, des tribus cannibales qui décorent les chasseurs de têtes.
Oui, pour
qui décorent les crânes,
chasser les mauvais esprits.
Comme des trophées. Ils coupent des têtes de leurs ennemis. Font bouillir la tête, sortent le crâne de là, puis le sculptent pour en faire un trophée.
Mm-hmm.
Okay? En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a toutes sortes de tribus, notamment les Anga, A-N-G-A, en Papouasie, hein, toujours. Les corps sont fumés pendant des semaines dans des huttes spéciales rituelles, OK? Puis, les places dans des falaises. C'est quand même hallucinant. Imagine, tu t'en vas dans trekking, Louis.
Ouais. Ouais.
Avec ta blonde.
Avec sa blonde.
Ça. Vous allez en trekking en Papouasie. Chez les Anga, les A-N-G-A, vous pouvez aller vérifier. Hein?
Mm-hmm.
ils mettent les cadavres fumés comme du jerky dans une tente rituelle pendant des semaines. Ils les mettent dans les falaises pour protéger le village.
Ah, bien sûr, on voit, c'est la première image qui sort là, quand on écrit « Angar ».
Oui.
Ah oui? Oh,
oui, absolument. C'est une forme de préservation. Oh, c'est une, on appelle ça, une, évidemment, là, c'est une forme de préservation qui est intentionnelle pour que les ancêtres continuent à protéger les vivants en ce monde.
Ah ben oui, okay? Toi, assis ouais. comme sur des petites estrades, là, comme si regardais une game de soccer.
Puis là, on va aller plus loin que ça. Dans la même région, dans le nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui est en Indonésie actuelle, mais ça reste des, ça fait partie de groupes d'îles, des îles très éloignées, super isolées.
Okay.
Ces gens-là se bouffaient entre eux même dans les années 50. Okay? C'est des cannibales. Puis là, ils se bouffent plus entre eux, il paraît.
Ils
ont plus le droit.
J'aime ton « il paraît » un peu dans le type « moi le croire quand moi le voir ».
Ils ont plus le droit.
Il y a des régions du Québec, ça a l'air, il paraît qu'ils couchent plus entre cousins et cousines. Il paraît.
Ah ouais.
Okay.
Mais paraît. Les assurances sont plus élevées. Ah.
Voilà.
Les Dani, D-A-N-I, en Papouasie-Nouvelle-Guinée indonésienne. Eux autres, ils fument les chefs importants puis les guerriers importants. OK? Fait que c'est pas Pierre-Jean-Jacques. Là, c'est les chefs de le clan, les chefs de tribu, les guerriers.
Comme si on fumait François Legault, genre.
Là, on fumerait François Legault dans un tipi rituel pendant des semaines. Puis là, on la conserve, la momie, OK? Mais dans une maison ronde au centre du village, OK?
Okay.
C'est des villages traditionnels avec des maisons longues. Fait que toute la tribu habite dans la même maison longue. Puis il y a des maisons rondes au centre du village dans lesquelles on met les momies.
OK.
Puis, les maisons rondes, on les appelle les onai. Puis là, les corps, les momies, sont placés dans toutes sortes de postures assis. Si tu les vois, là...
un genre de petite boule.
En position fœtale d'homme. Sommeil, puis il y a assis aussi, je pense. Hein, tu sais, en tout cas, en général, ces petites boules-là, style fœtale.
Ouais.
Puis là, mais là, attention, c'est là que ça, c'est quand même assez hallucinant. C'est que là, ils sont traités comme des membres vivants de la famille. On leur offre de la nourriture, puis on les consulte pour toutes les décisions importantes.
Ben voyons donc.
Puis là fait que les momies sont présentes dans l'espace domestique et rituel du village tous les jours. Si vous allez voir les photos sur le web, c'est fulgurant.
Hey, moi, c'est le genre
c'est vraiment extrême. Là. Le corps noirci, là, comme un jerky humain. Là.
Moi, c'est le genre de patente complètement absurde que je suis comme pas capable d'adhérer. Ça. On vient donner un lunch à la momie. Ah, il a pas mangé aujourd'hui encore. On jette le lunch, puis demain, je t'en ramène un autre.
Ils sont considérés comme des membres de la famille.
Wow.
Puis les momies interfèrent dans le réel des vivants. Parce que là, on est dans la prise de décision, puis... je veux dire, dans la gestion de la société, de la société, il n'y en a pas. Uh-huh. De la tribu.
Ouais.
Parce que justement, faire société, là, faire nation, c'est sortir de tout ça.
Tu bases ta vie sur les réponses de cette
cette épouvantail squelettique-là.
Moi, je vous trouve très sévère. Moi, j'aime beaucoup ça.
Chic?
Ah ouais, moi, je trouve ça hallucinant, là. Moi, c'est sûr que pour.
Sur les réponses.
Non. J'ai pas dit que je voulais me transfigurer en tribu Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là,
Philippe a vu une belle maison, là, mais c'est un peu serré pour son budget. Demandons à grand-papa.
Non, mais dans un cabinet
employé.
De curiosité, je le mettrais dedans.
Oui, mais je le trouve hallucinant. En dehors de chez nous, si possible.
Ah, moi, ça me fait rien. Mais,
mais tu pourrais pas.
Non.
Tu n'as pas le droit d'avoir
ça. En fait, je sais pas. Il y a certains pays pour les collectionneurs privés, parce qu'on va en parler tantôt.
Oui, mais... c'est ça, parce qu'il y a un marché de ça. On en parle. Je sais que tu as posé des questions à quelqu'un qui en a, là.
Oui, absolument. Ce qui arrive, c'est que ça dépend. La plupart des pays, que ce soit les pays d'Amérique latine, Chili, Pérou, Colombie, tout ce qui est pré-colombien... maintenant vaut des fortunes, fait partie d'un marché noir large, mais de plus en plus réglementé. C'est-à-dire que sortir... jusque dans les années 30, on pouvait acheter n'importe quoi, n'importe où. Il n'y avait pas de règles.
Okay.
En Égypte, par exemple, il y avait des marchands de momies au marché du Caire de 1880 à 1930. Donc, pendant plus que 100 ans, ou à peu près 100 ans, on pouvait acheter des momies au marché du Caire, mais c'était qui pouvait acheter ça? C'est-à-dire, c'est des personnages européens fortunés qui voyageaient à l'époque, qui disaient « Ah, une momie! Je vais m'en ramener deux, trois. » Évidemment, à partir du début du siècle, les nations, l'idée de l'État-nation, puis les nationalismes, dans les années 20, 30, 40, l'idée de protection nationale va devenir de plus en plus forte. Puis tu vois, l'Égypte, ça va être en 1983 qu'ils vont avoir un principe, une loi, qui vont, via Interpol, qui ont le droit de demander un mandat via Interpol de récupération, de rapatriement des objets qui sont sortis illégalement.
Ah, peu importe où ça bouge, si ça
c'est... Si c'est sorti illégalement, là, t'sais, si, mettons, moi, je disais, j'ai une momie égyptienne chez nous... j'en ai une. Si je faisais ça, je pourrais m'exposer. Probablement pas automatiquement, parce que, c'est, je veux dire, en Amérique du Nord, là, l'idée de l'espace privé, ça existe. Là.
Ouais, ça va être drôle de voir la police égyptienne débarquer venir chercher tes...
Non, mais là, c'est Interpol, puis ils ont un deal avec eux. Fait que, je vous le dis, la personne... Ce que ça fait, c'est qu'évidemment, les collectionneurs privés disent plus rien.
OK, ouais, c'est ça.
Tout le monde se ferme la gueule, parce que t'es en danger, là, honnêtement. Je veux dire, ta collection, hein, ils viennent, tu iras pas en prison, là. Mais tu pourras avoir des surprises. Hein. Ouais. Je connais l'histoire d'un collectionneur d'ivoire d'éléphant de Montréal qui avait, lui, qui avait des sculptures en ivoire d'éléphant de type une des plus belles collections au monde.
OK.
Puis ça l'a fait saisir parce qu'il l'a sorti de chez lui, parce qu'il en a fait une expo publique. Puis ils sont venus la saisir. Fait que, tu sais, il y a des règles des fois. Tu sais, fait que là, évidemment, les propriétaires de collections privées sont de plus en plus nerveux. Et avec raison,
mais généralement,
si j'avais ça.
Ben oui, effectivement, mais des collectionneurs, généralement, vont soit... Tu sais, il y a deux types de collectionneurs. Il y a ceux qui le font par amour du cossin et d'autres qui le font par espèce d'investissement. Plutôt que d'avoir des REER, eux autres ont une collection. Mais là, en étant dans un domaine niché à ce point-là...
Ouais, ouais. Ben, c'est le domaine du cabinet de curiosité. C'est très fort. Hein? Encore aujourd'hui, j'écoutais un documentaire sur les objets précolombiens... que ce soit les... Puis ça peut être aussi des crânes allongés, hein, parce qu'en Amérique latine, ils faisaient ça, des crânes allongés. Là. Ils mettent des bandelettes sur des bébés, puis à un moment donné, ça fait un crâne allongé, là, comme un espèce de...
Pas de tête d'eau, là, on dira pas ça.
Ouais, mais c'est une tête d'extraterrestre. Là.
Ouais. Comme
de
les conèdes,
carrément, là, naturel. Là. Donc, c'est ça. Puis ça se trafique beaucoup, ça se vend. Puis tu sais, il en trouve beaucoup. Puis c'est sûr qu'il y a un marché noir énorme. Tu sais, comme je le disais, pour... parce que, tu sais, en réalité, des momies royales en Égypte, il y en a 22. Hein? Il n'y en a pas 10
000.
Non,
c'est ça, c'est ça.
Il y en a 22. D'ailleurs, il y a une histoire incroyable. Il y a un type britannique au 19e siècle qui a ramené des momies du Caire. Comme je le disais, hein? Tu peux acheter ça. Hein? Au Canada, à Niagara, en Ontario.
OK.
Un Anglais, une espèce d'aristocrate britannique... qui ramenait des objets curieux de partout sur la Terre. Lui, c'était sa passion. Il collectionnait les objets, les curiosités. Et ils ont monté un musée privé qui s'appelait le Musée de Niagara Falls. Fait que c'était comme une espèce de musée privé à Niagara Falls qui contenait des items de toutes les tribus, de toutes les cultures du monde, puis notamment des momies égyptiennes, des têtes rapetissées, des crânes allongés, des crânes tribaux... Donc, toute une panoplie de trucs. Et le type, évidemment, la famille qui était propriétaire du musée, a vendu la collection en entier, tout le musée, à un gars de Toronto, un collectionneur privé, qui, lui, a fait évaluer les momies égyptiennes. Puis ça, on parle après la loi de 1983. Puis ils ont découvert que Ramsès I, le grand roi égyptien, était là.
Au Canada.
Oh, il était au musée... était au musée de Niagara Falls.
Le partant de ce que tu nous as dit tantôt, c'est sûr que l'Égypte ont rapatrié ça.
Ils ont donné $1 million symbolique US au gars de Toronto.
C'est plus fair que ce que je m'attendais. Moi,
ça
je
a payé, ça en fait, c'est ce que la collection au complet, le musée, y avait coûté à l'époque. Puis, il s'appelait Billy, ce gars-là, puis il a racheté tout le musée au complet, puis il a donné, en échange $1 million US, la momie de Ramsès I. Ramsès I a été ramené en avion militaire en Égypte. Puis il y a eu des, une cérémonie de funérailles royale pour son retour du Canada en Égypte.
Comme quand ils ont ramené Napoléon en France.
Ben oui, mais il y a
carrément.
Exactement. Il y a même une allée funèbre là, des funérailles d'État.
Ah, oh, ouais.
Oui, pour Ramsès, oh. Un pour son retour.
Puis là, tu as dit, il y a 22 momies royales. Est-ce qu'il y en a qu'on ne sait pas encore qui existent ou ces 22-là, c'est les 22 qui ont existé? Puis est-ce qu'on sait oui. toutes sont où? Il y en oui. a qui sont disparus?
Ça, c'est beaucoup de détails. Je ne saurais okay. pas dire. Mais ce que je crois, c'est que principalement, on a les momies royales.
Okay.
C'est les 22 qui sont là. Non, puis ça, ça inclut la fameuse Ramsès I qui a été ramenée de, ouais. de Niagara Falls.
Mais les bouts que les collectionneurs peuvent mettre la main à notre époque aujourd'hui, c'est des bouts qui datent.
C'est que les momies entières, 1930. Les momies entières, les têtes, les mains, les pieds ont été vendus librement comme curiosité, comme je l'ai dit, de 1880 à 1930 à peu près.
Et depuis, ils se promènent.
Puis elles ont fini dans les cabinets de curiosité partout en Occident, partout en Asie, en Russie, dans des souvent chez des collectionneurs fortunés. Certains, les momies, les morceaux de momies ou les momies, certains les achètent là, de façon assez virulente, là, quand ils chassent ça, pour en faire de la poudre. Puis là, c'est comme...
La poudre?
Qu'est-ce que
c'est ça? Ouais. Une drogue d'adrénaline de jeune d'un sous-sol de pizzeria.
Mais j'ai cru comprendre que c'était relié peut-être à des trucs un peu là, de type néo-chamanique.
Ah, ouais, c'est ça.
Puis, bon, comme je l'ai dit, depuis la loi égyptienne de 1983... l'Égypte peut émettre des mandats de rapatriement d'objets. Je suis absolument convaincu que les autres pays, tels le Chili, le Pérou, la Colombie, sont rentrés là-dedans aussi. Ils se faisaient dévaliser, ces gens-là.
Okay.
Puis encore aujourd'hui, le Pérou, le Chili, puis il y a des endroits où tu donnes un coup de pelle, là, puis tu sors une amulette précolombienne qui se vendrait 20 000 piastres à Paris. Fait que je te le dis, puis c'est un problème, ces affaires-là. T'sais, c'est sûr que... mais pour en ce qui concerne l'Égypte, c'est des trucs qui sont sortis il y a très longtemps. C'est pas un marché actuel, comme les crânes humains, par exemple, que là, il y a un marché actuel, soit de l'Inde, soit de l'Indonésie. Ou, en ce qui concerne les artefacts égyptiens, c'est des pieds, mains, têtes et momies entières qui sont sortis à l'époque,
okay.
1880-1930, grosso modo, jusque dans les années 50, mettons.
Je comprends, ils ont baigné dans le sel pour faire sortir l'eau, fait que... Il n'y a pas de pourriture, mais est-ce que ça a une odeur, cette affaire-là, à ta connaissance?
Non, j'en ai déjà tenu dans mes mains, là, puis non, ça sent absolument rien. C'est soit... Puis aussi, il faut le dire, là, c'est des artefacts qui ont été très abîmés.
Ouais, c'est ça doit être d'une extrême fragilité. Là.
Ben oui, puis aussi, c'est que s'ils ont été conservés comme ça pendant 2500 ans, c'est parce que c'était dans des états environnementaux extrêmement précis, désertiques, secs, sans aucune humidité. L'Occident, là, t'sais, l'Europe, les États-Unis, le Québec, c'est super humide.
Ouais, c'est
ridicule
ça.
Humide. Là, comme nous, on s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans l'année. Là. Mais on est dans des zones très, très humides.
Fait que les gens qui ont ça, il faut qu'ils créent comme un terrarium, comme s'il y avait un lézard?
Pas nécessairement. C'est parce que ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont être soit abîmés, un peu comme brisés en morceaux.
OK.
Mais il y a des momies, des morceaux de momies qui sont ossifiés. J'en ai déjà tenu dans mes mains, qui sont... Vraiment comme de la roche. Ça s'est devenu comme, fossilisé presque.
Oh, okay. Mmh.
Tu sais, après presque 3000 ans, hein, c'est la même chose pour les momies précolombiennes. Ça devient jusqu'à un certain point un peu comme un fossile.
Okay.
Tu sais, après 4000 ans dans une grotte, 4000 ans, il faut comprendre ce que ça veut dire.
Ah, c'est.
Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais un arbre deviendrait de la roche.
Mmh.
Un arbre de 4000 ans devient de la roche, là. Mais quand c'est pas une façon de parler, là, il devient un caillou. Là.
Carrément. Ouais.
Fait que tu sais, imagine la petite madame dans sa grotte, là.
Okay.
Elle est devenue une roche, mais elle reste en forme de madame. Fait que c'est ça qui est particulier quand même.
Les gens qui ont des collections de ce genre-là, est-ce que c'est dans un but de revente éventuellement ou bien c'est vraiment
C'est comme tous les mondes, c'est comme tous les univers de collectionneurs, là. Tout, j'imagine qu'il y en a que c'est carrément pour faire de l'argent. J'imagine qu'il y a des dealers de ça, de curiosité, c'est une évidence.
Ouais. Mais le pire, c'est qu'elle, je pense pas qu'elle est là-dedans pantoute, mais on avait déjà parlé avec Vanessa dans le show.
Oh, Vanessa.
Vanessa.
Oui, de Nature Curieux.
Oui,
mais elle a une collection hallucinante. Ah, elle n'a pas de momie égyptienne entière.
Non, mais elle fait des voyages dans certains pays pour trouver des insectes en particulier pour pouvoir comme
elle
les...
Elle a de tout, là. Taxidermie,
ouais.
Truc ancienne, une momie précolombienne,
elle est à toutes les tattoo shows que je fais, moi. Elle, à chaque fois qu'on est en convention, elle est tout le temps autour.
Oui, puis on peut visiter son petit musée privé. Ça vaut la peine.
Ouais, okay.
Ah, oui, c'est quelque chose de vraiment très, très, très hot.
Je sais qu'elle a eu du trouble aussi avec Desjardins, elle.
Ah oh, ouais, mais Desjardins, sortez de là.
Ouais.
C'est la catastrophe.
Ah oh, ouais, Desjardins.
Oh mon Dieu, bon. C'est une vraie catastrophe. Ça, on en... ça c'est un tunnel, on n'embarque pas là-dedans.
C'est bon.
Parce que c'est les momies, ça pourrait être Desjardins.
Ça, ouais.
Si les momies pouvaient se transformer.
Je suis ton grand amour de Desjardins.
Fait que donc, si évidemment, s'il n'y a pas de papier justificateur pour ce genre d'objet-là, en théorie, c'est illégal, mais il faut... encore là, tout dépend du pays. Puis... des ententes. Puis par exemple, avec l'Indonésie, il n'y a pas d'entente de tout ça, ça n'existe pas.
OK.
Fait que c'est, ça va dépendre vraiment des pays.
Mm.
Mais il faut, ça, grosso modo, c'est du marché noir, c'est illégal. Hein? Fait qu'il faut le dire.
Oui, non, c'est ça.
Ouais.
Mm. Fascinant, Phil. Un gros merci.
Hey, merci à vous autres.
Toujours le fun.
C'est toujours un plaisir.
Ah oui, puis écoute, c'est drôle parce que c'est des chroniques comme ça. Moi, je suis là, puis il faut que j'anime ça, mais tout ce que je fais, c'est « Ah oh, ouais! »
Il y a beaucoup de «
Ah oh, ouais! » Ah oui, mais c'est parce que c'est fascinant. Grim, qu'est-ce que tu veux que je rajoute là-dessus?
On est pendu à tes lèvres.
Et c'est fou aussi à quel point, tu sais, ils ont... Moi, c'est ce qui me fascine, là, ça a traversé les époques. Tu sais, aujourd'hui, là, on fait des affaires, on refait une rue, là, 10 ans après, puis là, tu vas me dire que la comparaison est super grossière, puis ça n'a pas de sens, là, mais on fait une rue 10 ans après à refaire.
Ah,
eux autres, ils ont momifié du monde.
Ah, oui.
4000 ans plus tard, il y a
encore
de quoi.
Là, puis ça marche, puis ça tient.
Il n'y a rien de notre époque qui va t'offrir 4000 ans.
Ouais. C'est qui la momie la plus populaire au monde?
Je sais pas.
Joe Biden.
Ouais, voilà. Hey, bon, si on veut davantage de Philippe Plamondon dans nos vies, c'est nomos-tv.com, mon cher.
Venez nous rejoindre à nomos-tv-.com. Venez vous abonner, venez nous voir, on a du fun. Ça coûte rien, c'est pas cher, puis on a du fun.
Merci, Phil.
Merci à vous.
On se retrouve dans 2 semaines.
Oui.
Petite pause, on revient, ce sera pas long.
Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.